Très bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième Midi Pédago de l'année, Midi Pédago qui va s'intéresser à la question de la conception des enseignements, on va parler d'apprentissage. Les Midi Pédago, donc, ce sont ces rendez-vous qui ont lieu tous les deuxièmes mardis de chaque mois, ici en salle du Belvédère, que vous pouvez suivre avec nous et avec de quoi manger, et ou à distance devant vos ordinateurs. L'idée ici, c'est de pouvoir aborder concrètement un thème qui fait, qui constitue notre activité d'enseignement, qui constitue le métier d'enseignant dans le supérieur. C'est de pouvoir également se rencontrer, partager. Tout à l'heure, j'étais très satisfait de voir qu'il y a des gens qui ne se connaissaient que de nom, qui ont pu enfin se croiser pour. Donc c'est un peu l'idée du Midi Pédago. Et puis c'est de construire toujours la communauté de pratique au niveau de l'établissement. Et à ce titre, on accueille les nouveaux collègues, les enseignants maîtres de conférences, stagiaires qui sont avec nous. Et je suis très content parce que nous allons pouvoir leur offrir officiellement aujourd'hui. On a reçu des ouvrages qui traitent de pédagogie. Et voilà, ils pourront venir tout à l'heure à la fin pour pouvoir choisir ce qui les intéresse le plus dans ce qu'on va leur proposer. Alors la question ici qui nous intéresse tourne autour de cette compétence, cette grosse compétence du métier d'enseignant dans le supérieur. Comment concevoir des enseignements qui favorisent l'apprentissage de chacun ? Alors, on va avoir des choses à définir parce que apprentissage, enseignement, ça nécessite. Peut-être pour parler de cette idée de l'enseignant, de ce métier d'enseignant, et notamment pour reprendre ce qu'avait une fois écrit André Tricot, il y a trois conceptions un peu basiques de notre représentation du métier d'enseignant. Je vous présenterai à la table après. Je suis en train de dire, j'ai complètement failli à mon devoir d'hospitalité. Trois façons un petit peu caricaturales de voir l'enseignant. On peut le voir un peu comme un artiste, le magistère, celui qui va venir et qui va, par son charisme, savoir ce qu'il doit faire. Il a le truc. C'est pas complètement faux, mais si c'est le cas, ça veut dire que ça s'apprend pas. On peut pas former, c'est un charisme, c'est inné.
Il est même parfois cabotin.
Pourquoi pas ? Mais voilà, c'est-à-dire qu'on est sur un enseignement, une pratique qui serait uniquement dans l'implicite. Deuxième façon d'être enseignant, le bricoleur. Celui qui va être un peu plus artisan, c'est-à-dire que là, un peu dans une logique compagnonnage, il va accumuler des expériences, il va voir des collègues, il va voir un certain nombre d'éléments qui, autour de lui, vont lui permettre de se construire en tant que professionnel. C'est pas inintéressant aussi, cette idée-là, ça nous parle. Ça a un petit peu le désavantage de se dire que finalement, il faudrait attendre d'être très, 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 très âgé pour que, finalement, on ait accumulé beaucoup d'expériences pour être finalement un bon enseignant, ce qui n'est pas faux, mais ce qui peut être éventuellement démoralisant quand on se dit qu'on a devant nous une carrière de... Je cherchais le nombre de décennies maintenant qui constitue la carrière d'un enseignant, voilà, qui nous amènera assez loin, jusqu'à cet âge d'équilibre. Dernière posture dans le métier d'enseignant, le côté technique, l'ingénieur, le professionnel, celui qui va mobiliser une rationalité, s'appuyant sur de la théorie, des exemples pratiques, et construire, voilà, de façon presque chirurgicale, la constitution de son métier. Alors celle-là, elle est intéressante, cette approche de se dire, c'est un métier, c'est professionnel, on a une technique. Néanmoins, c'est une technique, si on veut... aussi créer un peu de nuance, c'est une technique qui n'est pas infaillible. On n'est pas des garagistes, on ne travaille pas sur des véhicules qu'on pourrait réparer à chaque fois. L'enseignement nous échappe par moments. On a des étudiants face à nous, on a un contexte d'apprentissage et ce n'est pas possible de pouvoir garantir 100% de réussite à l'avance. Donc on n'est pas dans ces métiers de la modernité, on est sur ces métiers de l'humain où rien n'est jamais forcément toujours facile à voir. Donc entre l'artiste, le bricoleur et l'ingénieur, On va essayer de réfléchir ici avec les cinq personnes qui m'encadrent, essayer de réfléchir à ce qui fait la particularité de l'enseignant, en particulier dans cette première attitude, je vais concevoir mon enseignement. Alors je vais commencer à ma gauche, donc un petit tour de table pour que vous puissiez juste vous présenter.
Donc, Noémie Gauthier, je suis chef de projet pour le projet Réussite Pluriel, nouveau cursus à l'université, pour l'université de Caen Normandie.
Jean-Marc Autour, moi je suis enseignant à l'UFR des sciences et je suis rentré dans le vif du sujet, je me mettrai plutôt dans la catégorie bricoleur.
Voilà. Donc Jeanine Mertier, je suis ingénieure pédagogique et j'ai en charge le management et le pilotage du CEMU, le service d'appui à la pédagogie de l'Université de Caen.
Elsa Jaubert, je suis maître de conférence en études germaniques.
Donc Damien Bouchard, ingénieur pédagogique au CEMU, pilote du projet Écrit Plus et ingénieur pédagogique rattaché à la composante HSS.
Très bien. Alors, peut-être tout de suite, et je vais peut-être me tourner vers Jeanine Berthier, pour peut-être tout de suite cadrer un petit peu au niveau du vocabulaire, deux, trois éléments pour qu'on puisse naviguer ensemble dans la même direction. Commencer peut-être de façon assez simple, enseignement, apprentissage.
Apprentissage, oui, voilà. Je pense que on peut faire une entrée sur cette... cette approche, c'est-à-dire jusqu'à présent, on parlait beaucoup d'approche contenu. On concevait un enseignement par rapport à un contenu. On a beaucoup parlé aussi après d'objectifs pédagogiques. Et là, surtout, avec toute la réforme autour de l'approche compétences, vous allez voir, on bascule de cette approche enseignement à l'approche apprentissage. Et du coup, évidemment, ça modifie un peu le vocabulaire. Alors, si vous voulez, on peut rapidement faire un petit rappel, nous, alors évidemment, si on définit la compétence, des définitions de compétence, il y en a autant qu'il y a de disciplines, mais celle que nous, on a retenue, et c'est celle aussi qui va servir, nous, à toute l'équipe, pour accompagner les équipes à l'approche compétence, c'est la définition de Jacques Tardif, qui est un chercheur québécois, je crois. Voilà. Et donc, lui, il dit qu'une compétence, c'est un savoir agir, cette notion de savoir agir complexe, qui va mettre en œuvre la mobilisation, la combinaison de ressources internes. La ressource interne, ça va être justement des savoirs, des savoir-être, des attitudes, des comportements. De ressources externes, ça peut être plein de choses, ça peut être des outils, mais ça peut être des personnes. Et tout ça mobilisé et combiné à l'intérieur, ce qu'il appelle d'une famille de situations. Donc une famille de situations, ça peut être une situation professionnelle, mais ça peut être aussi une situation citoyenne. Donc ça, c'est cette notion de compétence. C'est vrai que maintenant, quand on va travailler avec les équipes, on va partir de cette notion, puisque vous savez qu'avec... on va revenir, mais non, il va falloir définir toutes les formations en blocs de compétences. Et puis après, eh bien, on va parler... Maintenant, à la limite, on ne va plus parler d'objectifs pédagogiques, on va parler d'acquis d'apprentissage. C'est-à-dire que pour atteindre cette compétence, eh bien, quels sont les acquis d'apprentissage que je vais devoir en mettre en œuvre pour que les étudiants puissent valider la compétence. Donc on va parler d'acquis d'apprentissage. Alors, les Canadiens ils parlent aussi de résultats d'apprentissage. Donc si on se dit, voilà, moi je suis enseignant, donc j'ai un enseignement. Voilà. Donc si on est en approche compétence, je veux dire, mon enseignement va permettre de valider peut-être telle compétence, qui aussi va être en part peut-être validée par un autre enseignement. Moi, voilà, moi je dois traiter dans mon enseignement ces acquis d'apprentissage. Et je vais construire, parce que j'ai un enseignement, des séances, évidemment, j'ai autant de séances que... alors ça, c'est aussi lié, les notions de séances, aux notions de planning. Et puis, dans ces séances, parce que je vais construire des séquences pédagogiques ou des séquences d'apprentissage. J'ai un objectif d'apprentissage, voilà. Alors, quand on formule un objectif d'apprentissage, on le formule aussi, donc là, à partir d'un verbe. Donc nous, on utilise, quand on accompagne les enseignants, des taxonomies, comme la taxonomie de Bloom. Et là, on va dire, voilà, je définis à partir d'un verbe, qu'est-ce que l'étudiant va être capable de faire, et puis après, éventuellement, avec des conditions, des critères. Et donc, à partir de cet objectif, eh bien, je vais définir quelle est l'activité ou les activités d'apprentissage à me proposer, à mettre en œuvre, pour permettre à l'étudiant d'acquérir et d'atteindre l'objectif d'apprentissage. Puis après, et puis évidemment dans les activités, on va des activités aussi d'évaluation, parce qu'il y a un moment où il faut permettre à l'étudiant de s'évaluer. Donc voilà, donc on est vraiment maintenant dans une entrée apprentissage et moins dans une entrée enseignement. On remet l'apprenant au cœur des apprentissages, donc des enseignements.
D'accord. Alors, n'hésitez pas si vous voulez compléter la chose. Donc c'est intéressant. Alors je vais tout de suite me permettre une petite question un peu provocatrice. Provocante. C'est-à-dire que là, en fait, il y a un discours qui est intéressant, qui est assez technique. Moi, je suis enseignant, je l'entends, je le reçois, mais je le reçois d'ingénieur pédagogique qui m'explique un peu, finalement, mon métier, les compétences que je manipule, c'est ça. Donc, est-ce qu'on pourrait peut-être un peu cadrer cette idée de à quoi ça sert un ingénieur pédagogique? Je me tourne
oui,
vers eux.
Non, mais c'est une bonne question, parce que je vous assure que tous nos ingénieurs pédagogiques sont à un moment confrontés, alors même si la question elle n'est pas directe, mais en tous les cas elle est souvent sous-entendue. Elle est là, on se dit, qui c'est lui, il vient me voir, voilà. Donc très bonne question, donc je sais pas, il y a peut-être un ingénieur pédagogique qui va répondre.
Moi je me place dans la situation où on va être là pour accompagner les enseignants justement à répondre à cette question-là, à pas forcément avoir toutes les techniques ou tous les acquis théoriques sur les apprentissages et les accompagner dans une situation, à leur définir les objectifs pour l'enseignement. Donc plus dans une position d'accompagnement que de prescription de méthodes ou techniques et de stratégies.
Oui, du côté voilà, du public, de ceux qui bénéficient de vos interventions, moi ça m'a permis en fait de passer du modèle, tu parlais ces trois modèles d'enseignants, j'étais plutôt dans le modèle artiste et bricoleuse, et ça m'a permis de rajouter finalement ce côté plus ingénieur, ce côté plus réfléchi que je n'avais pas, parce que je n'étais pas passée par une formation pédagogique. Et je n'avais pas ces éléments-là, et ça m'a vraiment permis, de progresser dans ma pratique.
Donc. Enfin, juste, moi, je rajoute, c'est que, de toute façon, c'est un duo, l'ingénieur pédagogique et l'enseignant. Il y a des compétences des deux côtés, évidemment, mais c'est la rencontre des deux qui fait qu'il y en a un qui va à l'écoute des besoins de l'autre. L'ingénieur va essayer de répondre, mais en même temps, on construit ça ensemble. Et il y a certains projets avec des enseignants où moi, en tant qu'ingénieur pédagogique, j'ai appris des choses, parce que pour répondre à ses demandes, à son contexte, ben aussi, je suis allée avec l'enseignant ou l'équipe aller faire des recherches, et je suis également montée en compétences sur certains points. Donc c'est vraiment cette notion, moi je trouve, si c'est un enseignant, de binôme, et d'échange, et de construction collaborative.
J'y tire souvent l'image de dans la discussion, dans l'échange avec l'enseignant, on voit à peu près en fait quelle est sa position et l'univers dans lequel il est à l'aise, dans lequel il a une posture. Et puis pour répondre à certaines problématiques, en fait, on va l'amener à changer un peu de posture, à essayer autre chose sur nos conseils, des éléments qui permettent de répondre à sa problématique et que nous avons testé, nous savons que ça fonctionne ou pas, que ça fonctionne. Tout ce qu'on a testé, on a regardé si ça fonctionnait, s'il y avait un intérêt, s'il y avait des résultats positifs. Et on l'amène à un peu changer de posture, mais sans le lâcher, en fait. On l'accompagne, on regarde. Et puis, est-ce que ça marche dans cette situation-là ou pas?
Oui, alors moi, je voudrais dire aussi, même si... les ingénieurs pédagogiques... c'est un métier, c'est-à-dire il y a une fiche métier qui est ingénieur pédagogique, il y a des formations, c'est-à-dire que tous les ingénieurs pédagogiques ont un master d'ingénierie pédagogique, c'est un master des universités. Et derrière aussi, c'est quand on expérimente et qu'on propose un accompagnement ou la conception d'un dispositif, d'un système d'apprentissage, nous on est aussi souvent, c'est toujours basé sur des travaux. Nous, on peut citer, on travaille beaucoup avec, à partir de ce que font les universités québécoises, parce qu'ils sont en avance. On travaille beaucoup aussi, on s'appuie beaucoup sur ce que font les universités belges comme Louvain ou Fribourg, parce que, voilà, on est aussi, même si on n'est pas, évidemment, on n'est pas du tout des spécialistes de sciences de l'éducation, on n'est pas des chercheurs en sciences de l'éducation, mais notre rôle, c'est un peu un rôle de passeur, c'est-à-dire qu'on suit, on fait de la veille sur tout ce qui se fait en recherche, en travaux, en pédagogie. On est dans des réseaux, c'est-à-dire qu'on va voir, on sait aussi ce que font nos collègues dans les autres universités, et dans ce rôle de passeur, eh bien après, quand on accompagne, on va aussi essayer d'appuyer tout ce qu'on propose sur ces travaux de recherche.
D'accord. Alors, avant de je vais poser la question à Jean-Marc, qui pourra nous parler, parce que c'est vrai que par défaut, là, ça nous amène à se dire que par défaut, l'enseignant ne peut pas parvenir finalement à tout. La question ici, c'est comment concevoir des apprentissages pour favoriser, concevoir des enseignements pour favoriser les apprentissages de chacun, des étudiants qu'on a avec nous. Est-ce qu'il y a des formules un peu miracles, des choses qui marchent
Voilà, très bien.
Voilà, je m'adresse au bricoleur. Le bricoleur, je dois bricoler à des cours là, pour le prochain semestre.
Justement, tu as pointé l'aspect favorise l'apprentissage. Ce terme-là, il n'a pas été choisi par hasard, finalement, parce que moi, je suis incapable d'évaluer l'efficacité des formules que je peux mettre en œuvre. En introduction, ce que je voulais dire, c'était est-ce que finalement, ce que je fais me permet de me sentir bien dans mon activité d'enseignant? Et est-ce que aussi j'ai ce sentiment par rapport aux étudiants, est-ce que mon public se sent bien dans ce que je mets en place, quoi? Et déjà, si on a ça, on peut penser qu'on va peut-être favoriser l'apprentissage. Donc ensuite, la question, vas-y.
Est-ce que tu as une recette miracle?
Ah, la recette miracle.
Des choses à favoriser, justement. Qu'est-ce qu'on doit favoriser ou ce qu'on doit éviter?
Qu'est-ce que toi, parce que si tu es là, c'est parce que on sait que tu es un enseignant bricoleur.
Voilà, bricoleur.
Qu'est-ce que tu as expérimenté qui finalement a fait que
a permis l'engagement? Qu'est-ce que j'ai fait qui a permis que je me sente bien et que les étudiants se sentent bien? C'est bien dans ce sens-là que je vais répondre.
Et puis après,
En fait, c'est faire des choses aux étudiants. Ouais. Voilà, c'est les rendre. Mais c'est un terme un peu galvaudé aujourd'hui. Les rendre acteurs de leur formation, mais quand même. C'est-à-dire, je peux citer un certain nombre d'expériences, mais l'année dernière, je leur ai demandé... On a tous des jurys de soutenance de stage, par exemple. L'année dernière, c'était plutôt que trouver des collègues qui fassent partie du jury et qui se tapent toute une journée de jury, en fait, c'est les étudiants qui faisaient le jury. Donc, à tour de rôle, j'ai composé différents jurys. Ils ont relu les rapports de leurs collègues, de leurs camarades. Et puis ensuite, ils ont fait le jury. Donc moi, j'étais juste là pour distribuer la parole, etc. Voilà, genre de choses qui marchent bien. Et ce qui est très drôle, c'est qu'ils se vouvoyaient. Donc les étudiants se vouvoyaient. Donc ils se mettaient vraiment dans la posture du jury. Des expériences aussi de créateurs-rédacteurs. Donc j'essaye de leur faire écrire des questions, alors soit pour faire du QCM, soit vraiment du QCM évaluatif, soit pour leur faire écrire un sujet d'examen. Donc ils créent des questions, ils corrigent les questions des autres, et puis je tire au sort certaines questions pour créer un sujet d'examen. Voilà.
Donc là, tu associes les étudiants à la création de tes activités d'apprentissage.
C'est ça. C'est ça, ou également sur des activités projet, on les rend organisateurs d'événements.
D'accord.
Voilà, pour leur apprendre à travailler, pour les obliger à travailler en groupe. Là, c'est donc un cours de gestion de projet. Donc il faut alors un événement, ce qui est intéressant avec un événement, c'est qu'il va se dérouler tel jour à telle heure, il faut que ça soit prêt. Et donc pour qu'on soit prêt tel jour à telle heure, il faut avoir structuré son projet, il faut avoir identifier les ressources, faut avoir défini un projet qui soit pas trop ambitieux. Ça sert à rien d'essayer de construire la tour Eiffel si on n'a pas le temps de le faire. Donc voilà.
Prendre des questions, oui, bien sûr. Alors on va juste prendre un micro pour que les gens à distance puissent entendre la question.
Merci. Bonjour à tous. Comment savoir si une formule est autorisée par l'université ou pas?
Ça, c'est une très bonne question.
Donc on a beaucoup de formules à essayer, mais après, quand on pose des questions à des collègues, on a certaines
doutes. Il y a deux niveaux sur ce qui est autorisé et ce qui est efficace. Il y a deux niveaux. Est-ce que je peux le faire? Et est-ce que j'ai intérêt à le faire? Il y a ces deux niveaux, à mon avis. C'est pareil, je vais peut-être vous laisser répondre.
Dans la modalité de contrôle des connaissances, chez nous, moi j'ai fait attention dans mes enseignements qui sont tous en contrôle continu, ça c'est une règle au niveau de l'UFR, en tous les cas en première année et seconde année de licence. Il y a également, en plus des écrits qu'il va falloir, qu'on n'a pas encore réussi à évacuer, mais qui est une modalité autre. Voilà. Il y a une modalité qui s'appelle autre, et dans autre, je mets ce que je veux. Et j'ai la règle, c'est 15 jours, enfin j'ai 15 jours pour expliquer aux étudiants comment ils seront évalués. Voilà.
Alors, au niveau réglementaire, sur les limites, c'est là où la fameuse liberté académique de l'enseignement peut s'exprimer. C'est sur les modalités qu'il va choisir pour concevoir son enseignement. On a cette liberté qui peut être présente ici. Une autre intervention.
Il y a quand même un point que je voudrais souligner qui, moi, m'embête beaucoup dans ma pratique. C'est la différence très forte dans nos formations entre le cours magistral et le TD. Et concrètement, hein, en CM, on est plus payé. Voilà. Donc, moi, j'ai quand même des scrupules, pour le dire franchement, à organiser des classes inversées ou des choses de ce type dans des heures de cours magistral. J'ai l'impression de voler l'université. Et il me semble... Il me semble que c'est une vraie question qui se pose. Et j'avoue que... c'est une discussion que j'ai eue avec Damien Bouchard. Parfois, je suis quand même songeuse devant les outils, les activités, les modèles d'activités qui nous sont proposés. Je me demande dans quelle mesure on ne nous prépare pas à un passage au tout aidé, pour dire les choses clairement. Est-ce que ce type d'activité nous invite à passer au tout aidé? Ça change quand même des choses sur ce qu'on enseigne, notre conception de l'enseignement. Ça change quelque chose à nos services. Et puis, les maquettes ne sont pas faites pour ça. Enfin, je veux dire, j'ai tenté des choses. Je sais pas, c'est Damien qui pourrait dire si je suis bricoleuse, ratée ou réussie, ou ingénieure, enfin, pas très clair.
On finit avec des pansements quand on bricole.
Voilà, mais ça, c'est quand même un vrai problème. Donc, y a-t-il des choses qui sont interdites par l'université? Peut-être pas explicitement, mais il y a quand même cette différence entre le cours magistral et le TD. Qu'est-ce qu'on, concrètement, qu'est-ce qu'un cours magistral pour l'institution?
Alors moi, je ne peux pas amener la réponse en disant qu'est-ce que c'est. Par contre, ça nous ouvre. Enfin, on peut peut-être d'ailleurs introduire le projet réussite pluriel, hein, parce que le projet réussite pluriel, c'est peut-être l'hybridation. Donc, dis-moi, mais
peut-être avant répondre sur ce qu'il y a plus, il y a plusieurs niveaux. Il y a la question, effectivement, sur l'existence des CM et des TD et des TP. Effectivement, même pour les TP, il y a eu d'un autre côté une valorisation des TP. Un collègue qui faisait son service en TP il y a 5-6 ans, il devait faire beaucoup d'heures pour pouvoir matcher celui qui faisait son service en cours magistraux. Il y a cette entrée qui est historiquement liée au fait que pour préparer un cours magistral, il y avait besoin d'avoir il y avait davantage de choses. Au niveau national, la réflexion tend effectivement plutôt à faire certainement disparaître cette modalité magistrale, notamment parce que ça s'appuie sur des études qui démontrent l'inefficacité des apprentissages, la majorité des apprentissages.
Peut-être pas disparaître.
Ou recomposer. Mais il y a des rapports où c'est quand même le...
Donc là, tu as quand même un élément de réponse sur la raison pour laquelle certains enseignants peuvent voir objectivement les ingénieurs pédagogiques comme leurs ennemis. Parce que je pense qu'un certain nombre d'enseignants seraient suffoqués de la suppression du cours magistral. Et j'insiste, pas seulement pour de mauvaises raisons. Il y a de bonnes raisons pour être attaché au cours magistral.
Oui, tout à fait. Donc, mais c'est pour ça que moi, je dis...
Ce genre de discours, c'est très gentil de le dire de manière explicite, mais
Mais
il y a peut-être des raisons pour lesquelles aussi les équipes enseignantes sont...
Mais moi, je pense que c'est pas la... Alors, la disparition des cours CM, cours magistraux, c'est... Enfin, moi, je suis pas aussi catégorique, quoi. C'est ce que... C'est-à-dire qu'après... Enfin, je pense qu'on va ouvrir un peu sur l'hybridation, mais l'objectif, hein, c'est d'emmener les enseignants à hybrider leur enseignement. Et donc, c'est vrai que quand on va hybrider... Enfin, le modèle CMTD, c'est vrai que vise à disparaître, mais des temps avec un enseignant dans un amphi qui fait un cours magistral, ça peut durer. Je veux dire que quand nous, on travaille avec des enseignants, on va vraiment faire ce travail sur... les objectifs d'apprentissage, quelles sont les activités qui sont adaptées, est-ce que c'est du présentiel, est-ce que je fais des choses en ligne, est-ce que je fais une activité de groupe, est-ce que je fais une activité individuelle, comment je vais évaluer. Et à un moment, si dans ce travail de scénarisation, on s'est dit, c'est pertinent que là, on ait un cours magistral, parce que c'est un sujet hyper intéressant, parce que l'enseignant est bon en cours magistral, il y a ça aussi. Enfin, il y a des enseignants qui sont des super orateurs, qui aiment ça. Donc, puis d'autres, on le sait, qui sont pas à l'aise. Donc, si dans notre travail de scénarisation qu'on fait avec l'enseignant, oui, c'est pertinent qu'il y ait encore un cours dans un amphi, on le conservera. Après, oui, mais après, c'est le modèle. C'est ce modèle de se dire, il y a CM qui est payé tant, TD qui est payé tant. C'est vrai que c'est risque peut-être d'évoluer. Mais supprimer le cours en amphi, non. Pourquoi ?
Et sur la question, peut-être que Elsa pourrait répondre, sur la question de voler un petit peu quand on passe en modalité distancielle ou hybride.
Non, alors inversée. Oui, alors moi j'ai pas ce sentiment-là parce que si on fait de la classe inversée, le CM quelque part il a été fait, il est travaillé, il est retravaillé.
Les 2 heures de CM, c'est pas la même chose que de faire une classe inversée en termes de temps de préparation.
Oui, mais si on fait un CM, si on fait un CM inversé, ça veut dire qu'on met on met en ligne, on met à disposition un certain nombre de ressources qui ont été créées, qui ont été travaillées, qui ont été structurées, hiérarchisées, et que ces ressources-là doivent être intégrées, lues et interrogées par les étudiants qui ensuite viennent. Et l'enseignant qui va justement réagir aux questions et pouvoir apporter une valeur ajoutée par rapport à cette ressource. Donc la ressource, il l'a bien créée. Donc en principe, la classe inversée, c'est le principe. Hein, donc,
oui. on peut proposer des ressources qui existent par ailleurs. Évidemment. Si le manuel est fait...
Oui, mais il y a des enseignants qui lisent leur manuel en CM aussi. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, moi, je l'ai vu. Hein. Ah, je l'ai vécu. Je l'ai vécu en tant qu'étudiante, des enseignants qui ouvrent leur bouquin et qui lisent un chapitre de livre. Donc, finalement, ça, je dirais, c'est l'éthique de l'enseignant et la façon dont il comprend son métier. Il y a ceux qui vont renvoyer vers... Et il y a des chapitres qui sont très bien faits. L'enseignant n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Donc, c'est... Je veux dire, vraiment, là, je pourrais pas... donner une réponse, tout dépend de la façon dont l'enseignant conçoit son CM et sa classe inversée. Parce qu'il y a aussi bien, voilà, moi j'ai vu l'exemple d'enseignants qui, en CM, lisent des chapitres des choses qui sont déjà rédigées et ils n'ont rien préparé. Et ça existe aussi. Et là, c'est du vol également.
Oui, mais prendre des cas un peu limites comme ça, ça ne prouve rien. Le CM standard, c'est pas un collègue qui lit un chapitre du manuel qu'il a écrit.
Mais je suis bien d'accord.
Y a-t-il eu des études randomisées sur la question ? Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire j'ai beaucoup de plaisir à faire des ateliers inversés, etc. Mais objectivement, le préparer demande moins de temps. Voilà, c'est tout. Je le dis. Objectivement, ça prend moins de temps.
Alors là,
de
faire ça. Répondre à la question. Alors là ici, il y a pas mal d'études qui sont plutôt.
Oui, non, pas nécessairement. Tout dépend comment on le prépare.
C'est plutôt le contraire, en fait. L'investissement est supérieur.
Et alors, c'est pas grave. Si à la fin les
étudiants... Oui, mais si ça vient justifier la suppression du CM et du TD et la modification des services des enseignants...
Mieux appris, plus appris, qu'ils ont été plus acteurs, qu'est-ce que... C'est tout bénef.
Et pour revenir à la première question, le fait qu'ils soient acteurs de leur formation, tu as évoqué certaines possibilités. Mais je pense que dans la réflexion qui nous intéresse, là, c'est comment est-ce concevoir les enseignements. Je pense qu'à la base, quand on réfléchit à une séquence de cours, ce qui est vraiment important, ce à quoi il faut réfléchir toujours, c'est à quel moment est-ce qu'on peut leur donner le choix. À quel moment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils soient actifs, qu'ils choisissent un sujet, qu'ils choisissent une forme de d'évaluation. Alors ça peut pas être le cas si évidemment c'est dans les modalités de contrôle des connaissances, c'est pas eux qui peuvent choisir. Mais si c'est un exercice, une évaluation formatrice, là à ce moment-là, on peut leur donner, voilà, à tous les élèves, à quel moment, à quelles étapes dans mon cours, je peux leur donner le choix. Plus on peut leur donner le choix, plus ils vont être en accord et adhérer avec la démarche de l'enseignant. Et donc ça favorise aussi les apprentissages. C'est pas une recette miracle, il n'y en a pas. Mais ça fait partie des éléments.
Je vous invite éventuellement à lire Roland Viaud sur les leviers de la motivation. Effectivement, le principe de la pédagogie active est... largement démontré ici.
On veut faire aussi une référence, moi je sais que je conseille, quand j'accompagne les enseignants, je conseille beaucoup les travaux de Marcel Lebrun, qui a beaucoup travaillé sur la pédagogie active, aussi l'intégration du numérique, parce que mine de rien, c'est aussi un support intéressant quand on veut faire évoluer ses pratiques. Et lui, il a un modèle, alors il y a 5 composantes dans ce modèle, mais il y a vraiment le côté... ça peut-être nous permettre de rebondir après, le côté informer les étudiants. Alors, il a informé, activé, c'est-à-dire faire varier les activités proposées aux étudiants. Ensuite, il a, je crois, produire, et mettre les étudiants en situation de production. Et lui, il va jusqu'à dire permettre à l'étudiant de faire un chef-d'œuvre. Voilà. L'étudiant soit valorisé, on lui demande de faire quelque chose. Et puis, pour interagir, articuler ces 3 composantes, lui, il parle de motiver et d'interagir. C'est-à-dire que pour que tout ça fonctionne, il faut mettre en œuvre, arriver à motiver les étudiants et surtout à interagir avec eux, mais des interactions entre eux. Et je trouve que tous les travaux et les articles de Marcel Lebrun sont assez intéressants pour ça, parce qu'en plus, c'est très, très opérationnel, très concret.
On parlera de la gouvernance, pour rester dessus, ici, là, il y a la question effectivement de l'information qui me semble assez utile. Alors effectivement, ça nous permettra peut-être de parler de la gouvernance, puisqu'on informe de plus en plus nos gouvernances. Mais informer les étudiants, mais aussi informer ses collègues de ce qu'on fait spécifiquement dans son cours pour éviter les zones de recouvrement ou qu'on se dise que c'est le voisin qui va traiter de la question. Il y a un outil qui n'est pas inintéressant, qui s'appelle le syllabus. On parlait un petit peu sur cet outil, à quoi ça sert, comment ça sert à qui.
Voilà. Moi je vois le syllabus comme étant un reflet en fait du cours, un document unique assez synthétique qui va représenter en fait l'enseignement, les objectifs à destination des étudiants. Voilà, un document unique que l'étudiant va pouvoir consulter, relire, et il va savoir ce qu'il va avoir dans cet enseignement. Ce syllabus-là, pour répondre à un cadrage qualité pour l'enseignement à distance, on a demandé à ce que tous les espaces de cours à distance aient ce document-là, qui est vraiment une aide pour l'étudiant.
Alors, est-ce que dedans, il y a quelque chose que... Il y a un concept qui est assez intéressant. On parle de figure géométrique souvent en pédagogie, le triangle de Jean Housset entre le savoir, l'apprenant et l'enseignant. Et là, c'est une autre figure qui est une droite avec 3 points alignés et quelque part doivent être rendus visibles dans le syllabus.
Dans ce syllabus, justement, on peut voir s'il y a une cohérence entre les objectifs qui vont être visés par l'enseignant, l'évaluation terminale qui sera mise en place, et puis les activités qu'il va y avoir tout au long de l'enseignement. Ce document-là permet de le voir de façon assez explicite. Ah oui. Et c'est ce qui va être recherché à la construction avec les enseignants, de faire en sorte que le syllabus montre bien ces étapes-là et au cas où rééquilibrer pour qu'on ait bien un alignement pédagogique sur ces trois éléments.
Voilà, donc c'est vraiment cette notion d'alignement pédagogique. Je ne sais pas si vous lisez un petit peu des articles en pédagogie, mais en ce moment on en parle beaucoup, quoi. C'est vraiment ça, c'est aligner les objectifs d'apprentissage. C'est-à-dire, quand un enseignant écrit ses objectifs d'apprentissage, à la limite, il doit directement penser, se dire, comment je vais évaluer ça ? Comment je vais pouvoir évaluer ça ? Comment pouvoir évaluer que les étudiants ont bien acquis ? Et puis, pour faire matcher les deux, objectif-résultat, eh ben, quelles activités je vais mettre en place pour permettre d'évaluer. Et cette notion d'alignement pédagogique, c'est un petit peu ça. Et le syllabus, c'est vraiment, entre guillemets, l'histoire du cours, quoi. C'est-à-dire, il ne faut pas hésiter à aller très loin. Enfin, quand on voit aussi, je vais revenir, j'insiste, mais les universités québécoises, si vous allez voir ce que font les universités de Laval ou Sherbrooke, un syllabus, c'est 4-5 pages. Et c'est des grilles séquence par séquence, l'heure du cours, quels sont les objectifs, comment on va travailler, est-ce qu'on va utiliser des ressources, est-ce qu'on va utiliser des outils, comment on va être évalué. Et ensuite, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'un syllabus, c'est une histoire, donc ça peut aussi évoluer. C'est-à-dire qu'en début d'enseignement, vous allez présenter votre syllabus, dire voilà comment on va travailler, on a tant de séances en présentiel, tant de séances en ligne, et puis aussi se dire ben, c'est quelque chose qui peut évoluer, parce qu'on sait très bien qu'un enseignement, entre guillemets, jouer une année avec un profil d'étudiant, vous le jouez l'année suivante avec un autre profil d'étudiant, et il y a des choses qui vont changer. Donc c'est se dire aussi, alors je sais pas, tu citais à chaque fois...
L'Université de Laval, voilà, qui fait voter les syllabus par les étudiants. En début d'année, l'enseignant contractualise avec l'aide de cet élément en disant voilà ce que je cherche à vous apprendre, voilà comment je vais vous évaluer et voilà ce que je vais mettre en place au milieu, ce que je vais demander, ce que je vais vous faire, ce que je vais vous demander comme travail pour que vous parveniez à réaliser ces évaluations qui seront la trace de l'acquisition des compétences et des objectifs qu'on travaille dans le cours.
Alors ça ne se fait pas qu'au Canada, il y a des enseignants à Caen qui le font aussi.
Ah
ça.
Ouais.
À valoriser,
ah
oui, alors là, vraiment.
Et non, mais c'est très bien. Et puis, c'est, là, ici, on travaille sur quelque chose qui est intéressant. Oui. Et puis, alors, tu mentionnais l'idée d'histoire, mais il y a aussi la préhistoire qui existe, parce qu'il y a des prérequis qui, parfois, nous semblent tellement évidents qu'on ne les mentionne pas. Mais quand on dit, ben voilà, à cet âge-là, il devrait être capable de le faire, c'est bien de l'écrire. Et que ça soit écrit dans l'ensemble de tous les syllabus d'un cours pour se dire, tiens, en fait, donc on leur demande beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être que ce n'est pas fait, peut-être que ça peut être intéressant que quelqu'un investisse un peu de temps pour le faire. Donc ces jeux d'emboîtement sont importants dans l'idée de son cours.
Et ce syllabus, il peut prendre différents formats. Il peut être, alors évidemment, ça peut être un document écrit. Bon, évidemment, si vous êtes vous commencez par une séance présentielle, vous allez le présenter, mais ça peut être un format vidéo, ça peut être
une infographie.
On voit de plus en plus des infographies, il y a des petits outils qui permettent à un enseignant d'enrichir son syllabus avec quelques infographies. Nous, tout à l'heure, Damien a parlé du cadrage qualité de l'enseignement à distance, où là, on conseille fortement, on va dire, aux enseignants qui assurent des enseignements à distance d'avoir obligatoirement, systématiquement, ce document, parce que c'est encore plus d'importance pour un étudiant qui est à distance. Ce qui est important pour lui, qu'il comprenne dès le départ sur quoi il va travailler, comment il va travailler. Et là, nous, on incite les enseignants à faire des petites vidéos. Et on a en plus maintenant un outil qui s'appelle un peu comme un vidéomaton. L'enseignant, il prépare, et là, comme un enseignant en présentiel, voilà, se présente et présente son cours, là, c'est une petite vidéo, ça prend l'enseignant, et il y a d'enseignants qui sont venus, ça prend quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure
Oui, la captation, non, c'est des fois, voilà, c'est 10 minutes, 15 minutes, les enseignants savent, en fait, c'est un discours qu'ils ont souvent en présentiel, donc c'est un discours qu'ils connaissent, et la présentation de 3-4 minutes, c'est 10 minutes de présence avec le technicien. Et ça permet, pour ceux qui sont à distance, en fait, d'incarner, d'avoir un visuel sur l'enseignant, d'entendre sa voix et d'incarner en fait les supports qui seront proposés par cet enseignant après dans son espace de cours.
Alors, pour changer un peu de sujet,
éléments qui favorisent les apprentissages.
Oui, élément
qui d'incarner,
d'incarner. Existe. L'humain reste l'un des facteurs aussi central de la situation d'apprentissage. Alors parlons d'un acteur un peu un acteur de plus en plus visible avec la gouvernance. Alors je me retourne vers Noémie Gauthier, donc qui est chef de projet NCU. Avant, en fait, les gouvernances nous demandaient de faire coïncider une salle, un prof, des étudiants, voilà. Et on était contents, ils ne nous en demandaient pas beaucoup plus. Maintenant, on a un peu une idée de performance, on nous demande le taux de réussite, on nous demande les modalités d'enseignement, on nous demande d'enseigner d'une façon ou d'une autre. Quels sont les enjeux qu'il y a derrière toute cette nouvelle activité, ce nouvel échelon qui existait très peu il y a 15 ans. On avait nos collègues, le chef du département, le directeur de département, directeur de composantes, mais on avait assez peu de contact avec la gouvernance.
Un des exemples en fait de ce changement de cap de la gouvernance, donc c'est le projet Réussite Plurielle. Juste pour le recadrer, c'est un projet, donc nouveau cursus à l'université, donc financé par l'ANR, dans le cadre des PIA3, donc les plans d'investissement d'avenir. Et c'est un projet en fait qui a été porté par la commune Normandie Université et qui concerne donc les trois universités normandes. Un des objectifs, des grands objectifs de ce projet, c'est de flexibiliser et d'individualiser les parcours des étudiants. Et donc, une des façons de flexibiliser et d'individualiser ces parcours, ça va être de varier les modalités d'enseignement. Donc Janine a déjà mentionné l'hybridation. Il y a aussi la comodalité, c'est-à-dire que, pour moi aussi reprendre cette formulation d'étudiants acteurs de leur parcours, les étudiants pourront choisir la modalité qui leur convient pour chaque UE, donc distanciel ou présentiel, en fonction de leurs différents impératifs, contraintes, personnel ou professionnel.
Et profil
d'étudiants. Et en fait, ça permettra aussi à l'université, finalement, d'ouvrir ses portes à d'autres étudiants, donc dans la logique d'ATLV, d'apprentissage tout au long de la vie. C'est-à-dire que certains étudiants pourront venir piocher quelques modules qui correspondent, en fait, à leur parcours ou à leurs intérêts.
Et pourquoi c'est important pour nous, je caricature un peu, mais pourquoi c'est important de s'inquiéter de la réussite des étudiants? Après tout, moi je fais mon cours, je le fais sérieusement, c'est leur responsabilité à eux de réussir mon cours, c'est pas à moi de le réussir à leur place.
Oui. est-ce qu'il y en a un avant qui veut répondre sur le...
Oui,
qu'est-ce que c'est réussir, quoi, dans ce nouveau contexte?
Donc, dans ce contexte de réussite plurielle, réussir, donc il y a bien évidemment réussir l'obtention de son diplôme, ça on ne va pas le supprimer, mais il y a aussi d'autres formes de réussite qu'on peut envisager pour nos étudiants. Et donc, dans le projet réussite plurielle, il y a aussi des actions autour de la valorisation des emplois étudiants-tuteurs. Et en fait, nos tuteurs aussi, c'est aussi un facteur de réussite pour eux et puis pour les étudiants tutorés. On a aussi la mise en place d'une UE engagement étudiant, la certification de compétences avec des open badges, par exemple, qui sont tout autant de formes de réussite en fait, qu'on peut aussi envisager pour nos étudiants.
Oui, pour revenir sur le côté la réussite des étudiants, c'est aussi les rendre acteurs. Non, et du coup, je voulais intervenir tout à l'heure, mais ce qu'a rajouté Noémie par rapport à la réussite des étudiants, ta question c'était
pourquoi c'est l'enseignant qui doit porter en plus de faire le cours là?
Parce qu'il y a certainement autre chose vu l'évolution de la société. Il y a des métiers qui sont pratiqués aujourd'hui, on ne sait pas ce que seront les métiers dans 10-20 ans, ils auront peut-être évolué, et c'est permettre aussi d'avoir à l'étudiant d'avoir des bagages suffisants, au-delà du diplôme, d'avoir des compétences et peut-être à un moment venir les compléter avec la TLV, et que ça lui permette de réussir sa vie, de réussir son existence dans la société.
Peut-être
Donc il y a un enjeu au niveau de l'enseignant. Il y a un enjeu aussi pour
l'enfant. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il me semble que tu participes et coordonnes la préparation à un concours.
Oui.
Où là, la réussite...
La réussite, oui, elle est
plus visible que quand on est en L2, c'est plus
lycée. Oui, elle est sanctionnée immédiatement par la réussite au concours ou pas. Donc, effectivement, c'est mesurable et observable. Oui.
Et est-ce qu'il y a un changement en tant qu'enseignant quand on prépare un concours comme ça ou quand on prépare un cours Est-ce que la réussite de l'étudiant...
Ah oui, oui, là, il y a plus... Effectivement, l'objectif, l'enjeu est plus présent. L'enjeu est quand même plus présent parce que à la fin de l'année, il y a le concours et il y a l'obtention ou pas du concours. Donc c'est vrai que l'engagement pour la réussite des étudiants dans ce contexte-là, on le ressent un peu plus fortement.
Parce que ça devient visible en fait si.
Parce que il y a un impact sur l'avenir professionnel immédiat. Mmh. Voilà, c'est plutôt de cet ordre-là.
D'accord.
Est-ce que la non-réussite au concours n'a pas quand même transformé la personne qui a suivi la formation ?
Alors là,
est-ce qu'elle n'a pas fait acquérir certains apprentissages ?
Ah, bien sûr. De toute façon, et tous, même si le concours n'est pas réussi, c'est une formation. Et jamais aucun étudiant n'est venu nous dire à la fin de l'année qu'il avait perdu son temps.
Voilà. Ça rejoint un peu les réussites. Il y a peut-être un échec à un concours, mais il y a quand même des réussites dans l'acquisition de compétences, l'acquisition d'apprentissage.
Oui, c'est-à-dire que réussite peut s'entendre effectivement à plusieurs sens. Il y a la réussite au concours qui est l'objectif premier de la formation, de la préparation à un concours. Et puis, il y a la réussite d'une année où on progresse, où on apprend, où on en tire quelque chose. Souvent, ce qui se passe aussi, c'est que les étudiants qui ne réussissent pas le concours, c'est qu'il valait mieux qu'ils ne réussissent pas. Et ils en ont conscience eux-mêmes. C'est-à-dire que, et c'est ça, c'est aussi une forme de réussite, c'est-à-dire que ça les fait progresser dans leur auto-évaluation, dans leur projet professionnel. Ça peut conduire à des réorientations ou au contraire au fait de persévérer en sachant qu'on a encore du chemin à parcourir. Donc ça fait aussi, c'est une progression. C'est peut-être pas une réussite, c'est une progression. Si on veut distinguer les deux. Quoi.
Alors, revenons sur un exemple un peu concret, si vous le souhaitez. Peut-être du côté des enseignants, Jean-Marc, Elsa, ou des ingénieurs qui ont accompagné des enseignants, vous pourriez donner un exemple concret d'un processus, que ça soit... Alors, sans tomber dans les effets de mode, on pourrait parler de ces effets de mode-là, mais de quelque chose qui soit en approche compétence, en approche par le jeu, approche projet, classe inversée, hybridation, co-animation, une situation parfaitement...
Alors, je vais faire exprès de citer une expérience qui me rapporte beaucoup d'heures et où je ne suis pas souvent présent. Voilà. En réponse à une question de tout à l'heure. Donc toujours avec mes étudiants qui font de l'événementiel, au premier semestre, on leur demande en groupe et quasiment en autonomie d'aller à l'extérieur de l'université, et en l'occurrence dans un Fab Lab, donc dans un laboratoire de fabrication numérique, fabriquer des objets en relation avec la thématique de l'événement qu'on organisera au second semestre. Et donc, grosso modo, je les vois trois fois. Je les vois une première fois pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire, une deuxième fois pour vérifier qu'ils sont à peu près structurés et que les objets qu'ils vont faire correspondent à peu près à la thématique, et la troisième fois lorsqu'ils présentent l'objet qu'ils ont réalisé. Voilà. Et donc, on leur a donné un espèce de syllabus en ligne, en leur disant les contraintes, on leur donne les contraintes, on leur donne les critères d'évaluation, et puis après, ils se débrouillent. Voilà, donc alors évidemment, il y a peu de présentiel, mais ça s'organise. Quoi. C'est-à-dire que de mon côté, il y a énormément d'organisation, de contact avec l'extérieur, de suivi un peu de ce qu'ils font. Voilà un exemple que je peux donner qui les motive. Et du coup, ils sont hyper motivés. Hyper motivés. C'est assez impressionnant. Quoi. Voilà.
Shadow.
Comment ?
Cette notion de
chef-d'œuvre. Oui, c'est la notion de chef-d'œuvre. Voilà. D'ailleurs, on appelle ça un concours du plus bel objet. Bon, c'est pas forcément en raccord avec ça, mais n'empêche, c'est un peu ça.
juste prendre le micro.
Qu'est-ce qui te fait dire que ça te rapporte beaucoup?
Bah, c'est-à-dire c'est combien payé en TD et puis ça...
C'est
ça
compté me... 3 cours de TD, en fait.
Non, plus.
Plus, ah, voilà, ouais. Donc ça dépend des composantes, en fait. En
le présentiel, enfin, voilà, c'est...
Mais non, la question elle mérite d'être posée, je pense que.
Sur la seconde partie où là on travaille sur l'événementiel, là on explose le nombre d'heures passées à préparer l'événement en plus de ce que font les étudiants. Donc,
je pense qu'il y a une disparité entre composantes. Certains vont devoir définir le nombre d'heures en présentiel. On prend pas du tout compte de ce qui se fait à distance. Et puis pour d'autres, c'est peut-être tout un ensemble d'enseignements et vraiment considéré dans l'hybridation. Voilà, où les heures de travail effectives sont un peu plus valorisées. Il y a réellement des disparités.
Oui, ça, oui, mais bon, par contre, au niveau de l'établissement, c'est un enseignant peut transformer, si on veut, un cours en présentiel en ligne. Hein. C'est-à-dire, au départ, les premiers enseignants qui sont lancés dans l'hybridation ou les classes inversées ont eu tendance à faire de la classe inversée, mais en maintenant tous les temps présentiels. Donc là, on s'y retrouvait pas, parce que quand on fait le travail aussi de construction, enfin de scénarisation avec les enseignants, il y a une notion qui est quand même hyper importante. Bon, c'est déjà le temps heure maquette, mais c'est aussi le temps apprentissage étudiant. C'est-à-dire que quand on va imaginer concevoir une activité d'apprentissage, on va aussi estimer le temps nécessaire pour l'étudiant pour la réaliser. Il faut qu'on reste cohérent, ça. Mais en tous les cas, maintenant, et un enseignant qui fait le choix d'hybrider, et de toute façon, on va, nous, notre mission, ça va être d'accompagner les équipes à aller vers l'hybridation, hein, puisque réussite plurielle, c'est 80% des enseignements soit l'hybridation en comodalité sur 10 ans. Donc ça veut dire qu'il va falloir que les équipes, elles évoluent. Il va falloir... Et là, c'est vraiment ça, c'est de se dire, j'ai scénarisé mon cours, j'ai certaines activités que je considère sont ou plus pertinentes ou plus intéressantes ou autres, elles seront en ligne, l'enseignant sera rémunéré pour ces heures qui sont du temps maquette en ligne. On va même jusqu'à aussi... là, on a fait des accompagnements d'enseignants où on rentre dans ADE. Ces temps qui sont en ligne, hein, évidemment, ne sont pas d'espace physique, mais on les rentre dans ADE pour que, bon, déjà, on va dire le côté pratique, pour que ça remonte au niveau des heures de l'enseignant d'en hausse, mais pour que l'étudiant il soit aussi conscient que ce n'est pas parce qu'il n'est pas en présentiel que ce n'est pas des heures d'apprentissage. Donc ça, de toute façon, ça, c'est validé, enfin...
Oui, bonjour. Moi, je poserais bien une autre question, enfin deux autres questions. En fait, est-ce que dans l'ingénierie pédagogique, est-ce qu'il y a un mode d'emploi sur comment gérer la diversité ? C'est-à-dire quand on a des groupes dans lesquels qui n'ont pas besoin des mêmes apprentissages, qui n'ont pas besoin des mêmes... Enfin, qui n'ont pas en fait les mêmes capacités aussi à apprendre tous de la même manière. Voilà, donc voilà comment on fait ça. Et puis ma deuxième question, c'est sur. Je vais partir d'un exemple. Ça se fait pas forcément, mais en cours d'histoire, par exemple, on a besoin d'apprendre des dates. On a besoin de savoir qu'à tel moment il s'est passé ça. Et alors, est-ce qu'il y a, ma question c'est ça, est-ce qu'il y a des formes d'apprentissage ? Parce que j'ai l'impression qu'on met dans l'apprentissage, on met surtout le agir, c'est-à-dire la réalisation, l'action.
Pas que, oui.
Mais apprendre, en fait, pour apprendre une date, apprendre les connaissances, ce qu'on appelle le compte, ce que vous avez au départ, j'imagine, un peu de manière, je dirais un peu caricaturale, m'en veuillez pas, mis enseignement égal contenu, c'est-à-dire, contenu qu'on apprend par cœur, c'est pas si caricatural que ça. Moi, je défendrais un petit peu aussi le cours magistral, parce que, en fait, une définition, ça s'apprend. Et qu'après, on agit plus facilement, et on agit mieux quand on a la définition en tête et qu'on l'a comprise. Et donc, en cours magistral, on va expliquer la définition et demander aux étudiants de l'apprendre. Et ça, apprendre, en termes de compétences et d'apprentissage, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ?
C'est effectivement une erreur de laisser croire que la mémorisation, parce que c'est ça ou pas, est peu importante. Parce qu'au contraire, en cycle L, la mémorisation, elle est encore extrêmement importante. Et effectivement, si on a beaucoup trop de mémorisation, enfin, en cycle M, normalement, la mémorisation a tendance à être moins importante. Mais l'effet de mémorisation, enfin, l'effort de mémorisation, il est extrêmement important. 40% des activités d'apprentissage tournent autour de la mémorisation dans le cycle L, à peu près. Les pédagogies actives, elles tendent à rendre signifiantes l'effet de mémorisation. Et je pense au jeu J-Cube, par exemple, qui est un exerciceur qui est tout bête.
Il présente le J-Cube.
Parce que ça permet de ça ludifie.
Manipuler le contenu, la connaissance.
Concrètement, est-ce qu'on peut avoir un exemple? D'une activité.
Il y a des activités là où on peut les rendre acteurs, c'est des activités dans lesquelles on va leur demander par exemple de la production, où ils vont devoir faire référence à des dates, si on prend l'histoire, qu'ils vont devoir aller chercher et après vérifier s'ils les ont bien maîtrisés, s'ils les connaissent. On peut aussi inciter, et là pour ça je pourrais reparler d'IdeaQuest, c'est les mettre dans des situations où, en fait, pour réaliser l'activité, pour bien réaliser l'activité, ils vont être obligés d'aller chercher les informations. Et du coup, après, ces informations-là, on peut soit les réutiliser comme ça, et si on veut vraiment qu'ils les mémorisent, passer par d'autres activités comme J-Cube, qui sera une plateforme un peu plus ludique, qui leur fait passer des tests, des quiz, mais de façon en fait suffisamment édulcorée pour qu'ils aient une motivation à y rester dans ces tests.
Les deux éléments, enfin, faut que ça soit signifiant. C'est-à-dire que l'effort, faut que ça soit signifiant pour que la mémorisation soit, l'ancrage soit important. Si on veut pas, parce qu'ils apprennent par cœur le théorème de Pythagore, ils le font très bien le lendemain. On les interroge que 15 jours plus tard, ils s'en souviennent plus. Donc, si on veut que ça soit important, faut que ça soit signifiant, qu'ils puissent comprendre dans quel contexte il faut l'utiliser. Et l'autre chose, c'est d'avoir... donc, il y a la signification, et puis d'avoir le contexte, un contexte d'apprentissage qui soit
qui
marquant.
Qui donne du sens.
Qui crée une... Mark Twain, je donne souvent ce petit exemple-là, Mark Twain avait essayé de faire apprendre à ses filles l'ensemble de tous les rois d'Angleterre et reines d'Angleterre depuis la reine Victoria jusqu'à Guillaume le Conquérant. Et il n'y arrivait pas, et pourtant ses filles étaient intelligentes. Il dit, mais c'est pas possible. Et il a trouvé un système, un jeu. Si vous regardez le jeu en ligne, vous verrez, c'est un jeu qui est généreux d'appeler ça un jeu. Mais voilà, c'est un système qui a fait que en 3 jours, elles ont appris toutes les dates et c'était incollable. Donc et alors que tous les matins, il essayait de lui faire réciter. Mm. Changement de contexte, c'est plus un apprentissage par cœur, on ludifie un petit peu, on leur dit que c'est un jeu. C'est peut-être ça. Et c'est peut-être pas beaucoup plus signifiant. Mais...
Bon, après, du coup, je vais reformuler ma question. Du coup, comment obliger les étudiants à jouer?
Par définition, c'est une bonne idée parce que pour la première, parce que par définition, c'est pas possible. Le jeu est une activité libre. Mais par rapport à la diversité des étudiants, et ça prend beaucoup de temps, c'est de créer des parcours. C'est de se dire qu'on n'a pas un seul profil d'étudiant. Et c'est là où ça se fait d'année sur année. Se dire, bon, voilà, il y a des profils d'étudiants qui iront tête baissée dans le jeu, là où d'autres résisteront, ne voudront pas. C'est d'avoir. Pour moi, la solution à la diversité, c'est de pouvoir offrir des parcours, notamment dans des parcours qui. En présentiel, des parcours différents, à distance, des parcours différents. Mais ça nécessite. Beaucoup d'énergie de la part de l'enseignant et ça se construit à mon avis d'année sur année. C'est ça, vous voulez?
Oui, effectivement ça prend beaucoup de temps parce que ça peut pas se concevoir du premier coup parce que ça demande beaucoup de préparation. Ça veut dire qu'on fait 3 ou 4 cours en un seul, donc c'est vraiment pour le coup c'est le bricolage d'année en année où on se crée des ressources Parce que sinon, la première année, même la deuxième, c'est pas possible. C'est au fur et à mesure. On va dire, bon, bah, là, je vais faire ça pour telle catégorie. Et puis, après, pour telle autre. Et puis, progressivement, on... ce qui fait qu'on arrive sur des espaces de cours e-campus que j'utilise beaucoup à avoir différents exercices pour différents niveaux. Voilà, ce qui me permet de donner l'impression à ceux qui sont très faibles de pouvoir aussi progresser. Voilà, il faut qu'ils aient le sentiment qu'ils ne sont pas complètement largués et qu'ils sont capables de réaliser des choses, de réussir des choses aussi. Mais ça se fait vraiment au fur et à mesure. Bon, en langue, voilà, c'est relativement simple, hein. On voit des niveaux, on propose des exercices à des niveaux différents, des ressources différentes selon les niveaux, mais ça se fait... Sur des années et des années. Hein. Enfin, ouais, non, mais objectivement, on ne peut pas tout mener de front et donc progressivement. Je voulais juste dire sur l'hybridation, notamment, il faut faire très attention avec l'hybridation parce que ça ne convient pas à l'immense majorité des étudiants. Et en fait, proposer des activités à distance, ça ne peut fonctionner que s'il y a un encadrement en présentiel qui est très fort, qui est très régulier. Et si l'activité à distance est ponctuelle, régulière, qu'elle a un feedback, enfin bref, qu'elle est vraiment... parce que sinon, même nous, des étudiants de master l'année dernière, on les a perdus. Et pourtant, ils faisaient groupe. Ils étaient... Il y avait une bonne dynamique, etc. Mais il y a un moment où... Pour des raisons, ça peut être pour des tas de raisons, hein, mais il y a énormément de bonnes raisons de rater un cours à distance ou même un cours hybridé. Donc, il faut être quand même très précautionneux, enfin voilà, dans la mise en œuvre.
Et pourtant, il y a des dispositifs presque, pas totalement, parce qu'on n'a plus aucun dispositif totalement à distance, mais on a des dispositifs qui sont vraiment à distance avec des étudiants qui réussissent parfaitement.
Et qui réussissent,
donc
voilà.
Tout ça, c'est vrai que c'est évidemment lié à l'équipe qui encadre, ça c'est sûr que l'accompagnement, l'interaction...
beaucoup au profil des étudiants.
Mais c'est aussi, et puis voilà, la question comment on peut les faire bosser, je pense que, évidemment, qu'on aura, il faut... mettre en place des activités qui les... mais souvent aussi qui les obligent. Hein, parce que si vous demandez à un étudiant entre suivre un cours en présentiel en étant au fond de l'amphi et puis être sur un projet, aller en Fab Lab... Au départ, quand vous leur dites... Moi, j'ai fait travailler des étudiants en groupe sur des projets et je mixais les présentiels et à distance. Je vous assure que le premier jour, j'ai fait ça avec des licences et des masters. Le pire, ça a été les masters, sciences de l'éduc. Quand je leur ai dit, vous allez travailler en groupe... J'ai cru qu'ils allaient, mais c'était un truc. Alors, c'était impossible, c'était machin. Évidemment, si j'avais laissé le choix, ils m'ont dit, oh bon, non, voilà. Mais donc, évidemment, qu'il faut aussi les bousculer, il faut les pousser. D'un autre côté, il faut donner du sens, il faut les engager, il faut les valoriser. Mais on se rend compte quand même, et bon, avec tous les enseignants qu'on accompagne, quand les enseignants se lancent dans ces pédagogies, on va dire, pour faire simple, des pédagogies actives, accompagnent les étudiants, alors, ça fonctionne quand même. Alors, au niveau résultat, c'est plus compliqué à mesurer ce que tu disais, mais au niveau de l'engagement, ça marche. Mais moi, je trouve qu'aussi, il y a un élément important, c'est pour l'enseignant, quoi. Et vraiment, le retour qu'on a des enseignants, c'est de se dire, c'est quand même plus intéressant, même si des fois, ça demande un peu de temps, d'enseigner comme ça que d'être dans des amphis, enfin, en face d'étudiants qu'on ne sait même pas s'ils ont compris. Enfin, je veux dire, on avait fait un colloque GIPN sur le... cette notion de plaisir d'apprendre, plaisir d'enseigner, quoi. Nous, le retour qu'on a, c'est des enseignants qui disent venir bosser sur un cours comme ça, bon, avec vous ou sans vous, hein, parce qu'il y a des enseignants qui font des trucs super sans nous, hein. Enfin, j'ai Jean-Luc et ça. Mais en tous les cas, tout le monde s'y retrouve, quoi. C'est vrai que c'est aussi valorisant. Enfin, bon, je sais pas, mais c'est quand même valorisant pour l'enseignant, quoi. Mais ça demande, c'est une bagarre, c'est une lutte, enfin, Paul utilisait le mot lutte, mais...
Si l'enseignant se sent bien en CM, il faut qu'il reste en CM,
oui,
par
oui,
contre,
oui,
parce
oui,
que
oui,
c'est
mais
pas la peine de...
Oui, mais si aussi, ça passe bien avec les étudiants,
si
parce
ça passe
qu'il
bien,
pas...
voilà, c'est... Oui, il faut pas oui, non plus que ça soit exactement. Imposé, etc.
Et c'est ce que disait Damien tout à l'heure dans le rôle de l'ingénieur pédagogique. Un bon ingénieur pédagogique, c'est aussi celui qui a la capacité de proposer des choses à l'enseignant en fonction de son profil. Voilà, on sait, on va pas, quand on travaille avec un enseignant, on va pas lui proposer, enfin, on va sentir, on va bien voir, quoi. Donc il y a le profil de l'enseignant, il y a ses appétences, et puis ça vient petit à petit. Donc mais c'est vrai que c'est plein d'éléments et de composantes.
Une dernière petite question, parce qu'on va arriver au terme.
Oui, alors juste une petite question, justement, vous venez de parler de la lutte. En TD, moi j'essaie de mettre en place des pratiques justement un peu interactives à partir de e-campus parce que j'ai peu de temps de TD. Et en fait, c'est une vraie lutte aussi organisationnelle, oui. C'est-à-dire avoir des TD stabilisés, des TD équilibrés, avec un effectif adéquat, c'est une galère pas possible. Et je passe un temps fou à m'occuper de ça, en fait, plus que du fond. Et donc là, peut-être qu'aussi, au niveau de l'université, on pourrait agir
Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec cet aspect. Et là, dans le projet Approche Compétences, où ça va être aussi une des missions de l'équipe du CMU à accompagner les équipes, où je crois que vraiment ce qui a été sous-estimé, c'est l'accompagnement, on va dire, techno et administratif. Parce que si on va vers de la comodalité de tous les enseignements, la comodalité, ça veut dire justement la gestion des étudiants, la gestion des groupes, la gestion des espaces et physiques et virtuels, et qu'en plus, c'est un espace d'apprentissage. Et ça, je crois qu'on n'a pas suffisamment mesuré l'importance de ce personnel d'accompagnement qui va gérer tout ça, parce qu'un enseignant ne pourra pas gérer ça. Et ce n'est pas l'enseignant de gérer ça.
Et ça fait que autour de l'enseignant...
Vous ne pourrez pas. Je veux dire, si vous êtes dans de la comodalité, vous devez avoir des étudiants qui vont être à distance, d'autres en présentiel, d'autres en parcours complet, d'autres qui... Enfin, nous, on le vit, on gère, on pilote des dispositifs FOAD avec des fois le présentiel. On a des assistantes qui, déjà, seules, ont du mal à gérer ça. Et puis, en plus, on vous dit qu'il faut interagir, il faut accompagner. Et ça, c'est vrai, ça ne fonctionnera pas, là, tout à l'heure. Donc, si on demande à l'enseignant d'enseigner, d'accompagner, d'évaluer, il ne pourra pas. C'est impossible. Non, mais c'est vrai, c'est impossible. Oui,
c'est
ça. Mais vous le faites. Mais...
Alors, je vais quand même reprendre pour conclure. On va pouvoir... notamment pour regarder un peu le format. On pourra échanger, il reste des sandwichs et du café. Cela dit, c'est vrai qu'à côté de l'ingénieur pédagogique et de l'enseignant, le fait que l'espèce de duo, le responsable de scolarité, il va devoir élargir son champ de compétences, son champ d'action, parce que c'est plus justement choisir la salle, c'est aussi... pour conclure, c'est pas inintéressant tout ce qui a pu être dit. Enseigner, c'est préparer l'étudiant à pouvoir réagir à des situations, des familles de situations professionnelles ou de familles de situations.
Des savoir agir complexes.
Voilà, et c'est pas qu'une adaptation, parce que des fois vous lirez des définitions, c'est pour ça qu'il y a un bouquin, je vais un peu le déconseiller, mais il y a des définitions, on dit que l'enseignement, c'est qu'on prépare les étudiants à s'adapter, c'est pas qu'une adaptation, parce que s'adapter, c'est-à-dire quelque chose qui est connu, on les prépare aussi à l'inconnu, à des métiers qui n'existent pas, à des situations, c'est pas simplement une adaptation un peu mécanique. Merci à vous tous et toutes d'être venus ici, à ceux qui ont suivi à distance. Les prochaines dates assez intéressantes à venir pour le mois de novembre, donc le prochain, va tourner autour de la question de l'encadrement des activités d'apprentissage. Donc là, quand on est dans la salle, qu'est-ce qui se passe? Quand on est dans l'activité, donc on l'a conçue, on essaie de réfléchir au maximum pour que les évaluations, les objectifs, les activités, tout ça se soit bien organisé, mais maintenant, on y est. On a pensé à notre éthique, tout ça, mais on est devant les étudiants. Comment on se lance dans la chose? Ça sera le 12 novembre, donc ici même à 12h30. Donc ça sera le début de semaine, le 12 novembre. Le 6 novembre également, il y a le lancement du MOOC Se former pour enseigner dans le supérieur, le MOOC du ministère de l'enseignement, donc avec qui est assez bien fait. C'est sa troisième année. Il n'est pas inintéressant, notamment pour avoir vu l'ensemble des ressources sur la question des compétences où ça a été effectivement renforcé. Donc vous pouvez toujours vous inscrire et aller voir les ressources. Et également, début novembre, je n'ai pas encore de date officielle, vous aurez la possibilité de vous inscrire aux modules de formation qui auront lieu sur le semestre prochain. Les modules de formation qui sont proposées dans le cadre du service d'appui à la pédagogie porté par le CEMU. Voilà, donc merci à toutes et à tous, et puis à très bientôt.
Merci.